Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, en partenariat avec YAG, animé par Brahim Naïdbal.
Bonsoir à toutes et à tous, Homo Micro, c'est Gouinement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur Fréquence Paris Pluriel, chaque dernier lundi de chaque mois. Gouinement Lundi, réalisé en partenariat avec Homo Micro, YAG et trois organisations, FIER, l'Inter-LGBT et SOS Homophobie. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Émilie Géhanno. Bonsoir.
Bonsoir Brahim. Ce mois-ci, on se penche sur les questions de la représentation et de la place des lesbiennes au cinéma avec le grand événement d'octobre, Cinéfable, le Festival international du film lesbien et féministe de Paris qui ouvre ses portes jeudi prochain, le 29. Avec nous ce soir pour débattre genre, lesbienne et grand écran, Brigitte Rollet, spécialiste des questions de genre et sexualité au cinéma et à la télévision, chercheuse au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et enseignante à Sciences Po, auteur de Jacqueline Audry, La femme à la caméra aux presses universitaires de Rennes, ou de Télévision et homosexualité, 10 ans de fiction française, 1995-2005 chez L'Harmattan. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Quel parcours.
Chris Lag, réalisatrice, vous venez de terminer un documentaire sur les drag kings en France, Parole de King. Bonsoir.
Bonsoir.
Inhabituée dans mon micro. Hein. Ouais.
Et Oksana Milmester, j'espère que je le prononce bien, et Anne Benigel, organisatrice du festival Cinéfable. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
On a besoin d'essayer vos voix, effectivement. Bonsoir.
Alors, donc, le festival célèbre cette année ses 27 ans, c'est une belle longévité. Pourquoi est-ce qu'en 1989, des lesbiennes ont ressenti le besoin de créer ce festival du film lesbien et féministe ?
Alors, en fait, à cette époque-là, les lesbiennes qui ont créé ce festival étaient des habituées du festival de films de femmes de Créteil. Et à Créteil, il y avait beaucoup de lesbiennes dans la salle. Il y a eu très très peu de films lesbiens sur les écrans. Donc en fait, elles ont un peu manifesté, elles ont essayé au départ de... D'abord, souvent le film qui était un peu lesbien, ou pour parler un peu de ce qui va être le sujet après, qui peut être un peu interprété comme vaguement lesbien, avait le prix du public, bizarrement. Mais il n'empêche que jamais on disait que c'était que les lesbiennes y avaient leur place. Donc finalement, plutôt que de dire bon, on râle à Créteil, ben elles ont créé un festival. Donc ça a commencé par un petit ciné-club, et puis ensuite ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui.
Donc au début, c'était sur une journée seulement, un week-end.
Le premier festival à l'entrepôt a dû être sur un week-end, je pense, ou trois jours, j'y étais pas. Mais parce qu'en fait, toute l'équipe a été renouvelée depuis. Hein, ça fait partie des caractéristiques de l'explication de la longévité. C'est qu'il y a beaucoup de renouvellement et qu'on garde l'esprit, on garde tous les principes d'organisation et on fait perdurer le festival.
D'accord. Et alors, comment ça se passe comment est-ce que vous sélectionnez les films? À partir de quand est-ce que vous vous organisez? Vous commencez à préparer le festival?
En fait, on a une équipe déjà d'une soixantaine de femmes qui organisent ce festival. On est organisé de manière horizontale par commission. Et on travaille sur toute l'année, en fait. On démarre la sélection vers le mois de février. On a une équipe d'une douzaine cette année de programmatrices. Et donc, on parcourt les festivals de films du monde entier à la recherche de films. On reçoit aussi quelques candidatures spontanées des réalisatrices qui nous envoient leurs films. Mais une grande majorité des films, on va les trouver là où ils sont.
Par exemple, est-ce que vous allez à Berlin? Vous allez où?
Alors, malheureusement, on n'a pas budget d'aller où que ce soit, mais on voyage beaucoup par Internet. Donc, on va éplucher les catalogues des festivals internationaux, aussi bien que les autres festivals viennent faire nos courses chez nous. Nous, on va chercher les films chez eux, on va aller voir les festivals LGBT, les festivals de films de femmes, partout dans le monde.
Les films sont nombreux, il y en a beaucoup, en général.
Alors, cette année, on a dû visionner en tout peut-être 300 films pour en sélectionner à peu près une cinquantaine.
Quels sont vos critères de choix?
Donc, tout d'abord, le film doit être réalisé par une femme. Donc ça, c'est vraiment le principe de base de Cinéfable. C'est tous les films qu'on passe sont réalisés exclusivement par des femmes parce qu'on met en avant le travail de ces femmes réalisatrices et le sujet doit être soit lesbien et ou féministe.
D'accord.
Donc après, c'est une question de qualité de film, de sujet aussi, du pays d'où vient le film.
Combien de films réalisés par les hommes sont rejetés?
je dirais
sur les
que...
300, par exemple.
Bah, justement, quand on recherche des films, c'est un des critères qu'on va regarder avant de contacter la réalisatrice. On va s'assurer que c'est un film qui est réalisé par une femme. Il nous arrive de recevoir des films réalisés par des hommes et on leur répond que notre sélection comprend uniquement des films réalisés par des femmes. Mais il y a bien d'autres festivals en France et ailleurs qui montrent des films lesbiens réalisés par des hommes.
Et alors la non-mixité aussi est un des fondamentaux de Cinéfable. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce choix et quelle non-mixité vous avez privilégié?
Donc en effet, le festival est ouvert à toute personne qui s'identifie en tant que femme. Et ça fait partie des principes de base de l'association depuis le début, donc depuis plus de 27 ans. C'est un choix. C'est un choix assumé d'identité propre, comme d'autres festivals ont leur identité. Nous, le nôtre, c'est vraiment un festival de femmes. Notre identité, c'est lesbienne et féministe. Et donc, ouvert aux femmes, c'est un espace qui permet à ces femmes, pendant là, cette année, 3 jours et demi, des fois c'est un peu plus, de se retrouver entre nous dans un espace où on peut partager librement, où on est loin de cette société patriarcale et hétéronormée dans laquelle nous vivons 365 jours par an. Et là, pendant 3 jours et demi, on a notre espace à nous.
Chris Lag et Brigitte, vous connaissiez l'association ?
Moi, je la connais depuis une vingtaine d'années, depuis que j'ai mis les pieds à Paris. Donc, j'ai suivi quelques festivals où je suis intervenue dans des débats où je suis montré mes films. Enfin, ça dépend des.
D'ailleurs,
des
cette
années.
Année, pardon. D'ailleurs, cette année, votre film Parole de King sera aussi projeté à Cinéfable.
Bonjour. Oui, j'ai commencé. Je pense que la première fois que j'y suis allée, c'était encore au Kremlin-Bicêtre. Et puis après, j'ai suivi dans le 18e.
Trianon.
Au Trianon. Enfin, voilà, j'ai suivi les différents endroits. Où le festival avait lieu.
Oui. Et quelle est votre expérience en tant que, enfin, dans ce festival, Brigitte?
Disons mon expérience de spectatrice que j'ai trouvée très agréable, en particulier au Trianon. J'ai un souvenir d'une sélection particulièrement différente de ce que je connaissais jusqu'alors dans les festivals de films de femmes, et en particulier le fait qu'il y avait des comédies, parce que parfois il y avait un côté un petit peu triste dans les films de femmes, et les films lesbiens en particulier. Et là, j'ai un souvenir, entre autres, de salles qui riaient. Et ça m'avait beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup frappé parce que c'était pas toujours le cas, par exemple à Créteil ou ailleurs, où on riait pas toujours. En même temps, c'est pas toujours drôle ni d'être une femme ni d'être une lesbienne. Mais je trouvais que là, il y avait une manière d'utiliser le rire de façon très très convaincante, un peu politique comme ça, pour dire des choses sérieuses, mais sous l'angle de l'humour.
Et alors là, est-ce qu'il y aura des comédies cette année?
Alors oui, forcément, il y en a tous les ans et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la programmation est très éclectique, très diversifiée. On a des longs fictions, des longs documentaires, des courts, des animations, vraiment toutes sortes de films qui viennent de partout dans le monde, y compris des comédies. On en a un qui est fait par la même réalisatrice qu'il y a quelques années, on a passé Codependent Lesbian Alien Six Same. Donc par la même réalisatrice qui cette année nous présente Foxy Merkins, qui est une comédie assez déjantée. On a des courts-métrages fiction drôles, aussi bien que des courts-métrages fiction pas si drôles que ça, mais aussi des films documentaires féministes engagés qui montrent des parcours de femmes extraordinaires, avec aussi énormément d'humour et beaucoup de joie de vivre et de volonté.
Rassurez-moi, dans la plupart des films, est-ce qu'il y a des hommes qui apparaissent à l'écran?
Quand même.
Un peu.
Oui, quand même, oui. Bien sûr, on vit dans un monde d'hommes, de femmes, de beaucoup de personnes différentes et variées. Et les films montrent aussi la vie. Mais le but principal de notre festival et donc des films qu'on sélectionne, c'est de montrer la vie des femmes et la lutte des femmes.
Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, quels sont aussi les autres événements marquants? Il y a des débats, des soirées peu thématiques sur une initiation au tantra féminin, me semble-t-il.
Tout à fait. Donc, comme tous les ans, on a bien évidemment beaucoup de films, mais on a aussi une exposition. On a des artistes, bien entendu, des femmes également, des artistes plasticiennes en expo. On a aussi des débats qui reflètent un petit peu le sujet dont on parle aujourd'hui sur les femmes artistes, sur le féminisme qui font écho aussi à la programmation. Table ronde avec les réalisatrices, etc. On a aussi donc cette année un atelier tantra. Il y aura également le vernissage de l'expo. Il y aura des performances. Il y a un espace de convivialité, d'échange où on peut manger, rencontrer les autres. Il y a énormément d'événements annexes qui se passent.
Oui. Et moi, je rajoute qu'il y a aussi des stands d'associations et aussi la librairie Violette & Co, qui est notre partenaire depuis très longtemps et qui invite des auteurs pour des signatures. Donc, ça permet aussi d'autres types de rencontres.
Violette & Co qui intervient... Enfin, la librairie intervient le premier lundi de chaque mois au Momicro, qui présente des livres.
Est-ce que vous avez des films qui vous ont particulièrement plu cette année que vous conseilleriez à nos auditrices?
C'est une question très difficile parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, comme je vous ai dit, on en a vu à peu près 300 pour en sélectionner 50. Donc, vous pouvez imaginer le choix difficile. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous pose la question, on a beaucoup de mal, nous, dans la programmation, à répondre. Parce qu'on a l'impression que quasiment tous les films sont des coups de cœur, réellement. Et il y a déjà l'ouverture et clôture, ce sont des films très forts féministes qui retracent l'histoire du féminisme des femmes activistes. Il y a d'autres films documentaires féministes, des portraits de femmes assez extraordinaires comme Solar Mamas, comme Casablanca Calling, comme Six Days. Enfin, voilà, il y a je peux nommer quasiment tous les films. Le film de Chris Lag et également sur Parole de King, sur les drag kings. Il y a des fictions, comme on disait tout à l'heure, des séances de courts métrages. Très difficile à choisir, il faut y être.
Alors moi, j'ai fait une petite sélection. Il y avait notamment les films... Visibilité sans cette lesbienne, qui a l'air assez intéressant, sinon quoi d'autre? Oui, Butch Tits, l'intitulé, je trouvais ça drôle. La relation entre les lesbiennes Butch et leur attribut mammaire.
Il est très drôle, ce petit film.
Et le film portrait de Christine Delphi, Je ne suis pas féministe, mec, que j'ai loupé. Alors, je vous le conseille si vous l'avez raté aussi. Est-ce que vous pouvez aussi me dire donc les dates, puisque là on en parle depuis tout à l'heure, c'est du 29 octobre au 1er novembre, et c'est où?
Alors, c'est à l'espace Reuilly. Oh. C'est à l'espace Reuilly dans le 12e.
21 rue Hénard.
Au sein de votre association, il y a... Oui, vous vouliez ajouter, pardon. Vous êtes une soixantaine à peu près?
On est une soixantaine d'organisatrices, en fait. Toutes D'accord. les festivalières sont adhérentes de l'association.
D'accord. Parmi les organisatrices, alors, il y a des jeunes féministes aussi. Il y a toutes les générations qui sont réunies.
Oui, il y a tous les âges, oui.
C'est un des premiers lieux, en fait, où les femmes de... jeunes femmes, quand elles viennent de province, en fait, se retrouvent, parce que c'est un festival assez connu. Je parle en connaissance de cause.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment un espace qui permet de découvrir, en fait, le monde lesbien et féministe quand on arrive sur Paris.
On va proposer un premier morceau musical, Émilie.
C'est ça. Donc aujourd'hui, donc pour être raccord avec le thème de l'émission, on a choisi des titres de musique extraits de films ou de documentaires que les intervenantes ou l'animatrice ont beaucoup aimés. On commence avec Girlfriend de Nanmika et Sexy Sushi, extrait du road movie Too Much Pussy, réalisé par Émilie Jouvet. Too Much Pussy raconte la tournée des femmes artistes queer sur les scènes européennes au cours de l'été 2009. Au programme, discussion féministe lors des trajets en minibus, halte dans les squats allemands et performances burlesques et féministes pro-sexe.
She don't Allez, fille.
À l'antenne, émission genre lesbienne et cinéma. Alors, grand thème pour commencer, représentation des lesbiennes, n'est-ce pas, Émilie ?
Oui, tout à fait. La question qu'on se pose aussi maintenant, c'est de savoir quand est-ce que les lesbiennes ont été pour la première fois représentées au cinéma, Brigitte ?
Ben, en fait, quand on pose la question de la première fois, est-ce qu'on veut dire les lesbiennes identifiées comme telles, qui se représentent elles-mêmes comme telles, ou des désirs différents ? Et en fait, si on regarde, alors je pense que je ne suis pas remontée, moi, très très loin, hein, mais le film qui a marqué vraiment, c'est « Jeune fille en uniforme » dans les années 30, de Léontine Sagan, qui était une adaptation d'une pièce de théâtre de Christa Wisslow, et qui, pour la première fois, mettait en scène vraiment un sentiment amoureux très très fort. Il y avait surtout ce baiser donné, qui était en fait un baiser relativement chaste, mais qui était donné par l'adulte avec l'adolescente. Et cette figure comme ça d'une adulte et d'une adolescente, c'est quelque chose qu'on va retrouver après avec Olivia, qui va se décliner de façon un petit peu répétée au cours du temps. Mais je pense qu'on peut trouver sans doute, je n'ai pas de titre, parce que moi c'est surtout vraiment le film... du départ, pour moi, c'est vraiment Jeune fille en uniforme qui met en scène réellement, sans faux semblant, le personnage de Manuela dit je l'aime. Enfin, il y a vraiment cette expression d'un désir. Donc, on n'est pas simplement, même si les personnes ne se disent évidemment pas lesbiennes, ce sont des mots qu'on rajoute, mais ça met en scène des désirs lesbiens.
Est-ce que vous savez, à cette époque, donc dans les années 20-30, comment étaient reçus ces films ? Ou alors, est-ce que c'est très compliqué à savoir ?
Ça, la réception de ces films-là, je ne sais pas trop. En tout cas, en France, parce qu'on va reparler d'Olivia un peu plus tard, mais justement, le Jeune fille en uniforme avait été reçu de façon très, très positive par la presse française, qui sera moins le cas avec le film de Jacqueline Autry. Mais pour Jeune fille en uniforme, parce qu'il y avait aussi mise en scène, c'était un film de pensionnat. Donc, il y avait représentation d'une autorité prussienne. Donc c'était plus qu'un film de pensionnat, il y avait vraiment cette construction du monde des adultes et du monde des adolescentes. Et il y avait, de la part de la critique, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, un avis très favorable autour de ce film-là.
Ils en disaient quoi, ces critiques ?
Ben, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de pudeur, parce que c'est justement ce qu'on va reprocher à Jacqueline Autry de ne pas avoir fait, qu'il y avait une pudeur, c'est-à-dire qu'on ne montrait pas, on ne donnait pas à voir, même si Manuela, et puis c'était une adolescente, et puis, à la différence d'Olivia, le personnage de l'adulte n'est pas... c'est pas une prédatrice, c'est pas nécessairement une femme qui qu'on appellerait aujourd'hui pédophile, qui s'intéresse aux adolescentes, quoi. On est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Donc il y avait ce terme de pudeur, les émois de l'adolescence. On est sur un terrain comme ça qui fait qu'on ne parle pas du tout de sexualité et on ne parle pas du tout presque d'homosexualité.
Et après, à partir des années... Enfin, est-ce qu'on peut retracer l'histoire ? Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus un film... Tout à l'heure, vous parliez des films de pensionnat. Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus de films... dans ces thèmes-là, ou alors après, je sais qu'il y aura aussi des films sur dans l'univers de la prison aussi, donc des univers exclusivement féminins. Mmh. C'est dans cet univers-là, en fait, qu'on crée les histoires entre femmes.
Oui, mais en même temps, il y a toujours cette idée que les espaces non mixtes sont des nids à lesbiennes. Donc, que ce soit la prison de pensionnat, le couvent, si vous pensez à l'adaptation de Café Rivette de La Religieuse de Diderot. Donc, on a comme ça, avec beaucoup de fantasmes, cette idée que s'il n'y a pas d'hommes, il faut que les femmes se consolent d'une certaine façon. C'est vrai, hein, j'ai vraiment l'impression qu'on projette sur ces espaces non mixtes.
C'est la même chose chez les hommes, vous me direz.
Sans doute, ouais. Sans doute. Mais il n'y a pas d'équivalent chez les hommes de cette image des femmes entre elles qu'on va trouver, par exemple, dans le cinéma porno. Ouais, donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même beaucoup de fantasmes autour des femmes entre elles, même si tous les couvents ne sont pas des repères de lesbiennes. Mais malgré tout, toutes les prisons non plus. Il y a des pratiques homosexuelles, mais c'est cette idée que des femmes entre elles sont nécessairement... Ouais. Elle ne pense qu'à ça, quoi. Il y a un peu ce qui ne correspond pas tout à fait à ce que le cinéma va en montrer. À part, on a certaines séries. Moi, quand j'étais en Grande-Bretagne, il y avait une série qui se passait dans une prison, qui était vraiment une série culte parmi les lesbiennes britanniques. Il y en avait sans doute dans d'autres pays, mais c'était cette idée qu'il allait se passer des choses, parce que c'était un univers, quand vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'hommes dans les films de cinéphiles, mais il y avait d'autres films, d'autres séries dans lesquelles il n'y avait pas d'hommes. Mais il n'y avait pas non plus nécessairement une espèce de lesbianisme généralisé. Il y avait des pratiques, en effet.
Et alors, parmi les films réalisés, disons, depuis les années 1920, les représentations des lesbiennes ont été le fait principalement d'hommes derrière la caméra.
Oui, mais en même temps, c'est un peu au prorata, comme il y avait très peu de réalisatrices, il est évident que quand il y avait des personnages de lesbiennes, déjà, il y en a très peu. C'est pas nécessairement un personnage... La lesbienne telle qu'elle est construite par... Alors après, on pourra éventuellement revenir à une actualité plus récente, mais telle qu'elle est construite dans le cinéma faite par des hommes, je dirais pas que c'est un personnage repoussoir, mais si vous avez vu Les Biches de Chabrol, on peut pas dire que ce soit vraiment une incitation à l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours cette idée d'un ménage à trois avec des personnages féminins qui ne sont pas du tout faits pour faire frémir la ménagère de moins ou plus de 50 ans. Pas du tout. C'est vraiment des personnages qui ne sont pas construits comme des objets de désir. Ça va être intégré dans des récits avec un peu la trouble fête ou quelque chose au sein d'un couple. Mais le regard des lesbiennes n'est jamais donné à voir. On n'est pas du tout dans une construction... positif du personnage. Je dirais pas maléfique, mais il y a quand même un petit côté négatif autour de ce personnage-là.
Les films qui sont faits par les hommes la plupart du temps, donc les hommes en général imposent tout, décident tout, c'est comme ça que ça se passe, ou il y a quand même, ils ont des conseillères
Ah ça, je ne sais pas. Ce que je sais, pour le dernier dont... qui a eu la Palme d'Or, c'est que apparemment il y a quand même eu, il n'y a pas eu de conseillère lesbienne pour rien. Donc à part l'ouvrage de départ, mais pour ce qui est des réalisatrices et des choix de ces personnages-là, ça ne répond pas à un désir de donner à voir. Oui. Et c'est ça la grande différence avec ce qu'on a pu trouver plus récemment, par exemple, où il y a une volonté de montrer et de montrer autrement aussi, parce que il y a tout un continuum d'images dans lesquelles les lesbiennes ne se retrouvent pas nécessairement. Et justement, par rapport à ces amitiés fortes, il y a beaucoup de films qui mettaient en scène des amitiés entre femmes qui n'étaient pas concrétisées. Moi, je pense au film Julia, qui m'a énormément marquée quand j'étais adolescente, qui était un film avec Jane Fonda et Vanessa Redgrave, où il y a cette amitié. Alors, pour une, je pense que si elle avait évolué, elle n'aurait pas été contre, un peu comme, ou dans Coup de foudre de Diane Curis. Mmh, donc c'est vraiment des films qui ne sont pas des films à proprement parler lesbiens, mais qui ont vraiment parlé aux lesbiennes, en donnant à voir des amitiés dont on pouvait toujours se faire son film en imaginant qu'elles allaient plus loin.
Oui, il y a eu beaucoup de films comme ça où les femmes lesbiennes se sont identifiées avec les personnages féminins, et puis où il a fallu décrypter le film pour y voir éventuellement les relations lesbiennes ou pas.
Je voulais juste rajouter une chose par rapport au cinéma des années 30, c'est qu'il y a des films aussi qui n'étaient pas des films lesbiens, mais avec des personnages, je pense, deux mois très très marquants, c'était La Reine Christine et Morocco avec respectivement Greta Garbo et Marlène Dietrich, et où il y avait chaque fois une scène de baiser, mais pas de baiser torride, mais de baiser entre femmes. C'est la reine Christine et sa dame de compagnie, et puis dans la scène de spectacle dans Morocco où Marlène Dietrich va embrasser une des femmes du public qui ne s'y attend pas du tout. Donc c'est quelque chose qui se met un peu du trouble dans le genre, surtout qu'elle est dans les deux cas, ce sont des femmes travesties en hommes, et donc il y avait quelque chose qui, ce ne sont évidemment pas des films lesbiens, mais ce sont des films qui ont donné quand même à voir autre chose et qui ont un petit peu fait bouger les lignes des représentations des baisers de cinéma, par exemple.
Ce sont des films qui ont tous marché, on va dire aussi, non?
Oui, ça je ne sais pas bien. De toute façon, Garbo et Dietrich étaient des stars elles tournaient avec des grands noms. C'est Stenberg dans un cas et Mamoulian dans l'autre. Donc c'est quand même des grands cinéastes. Donc et puis c'était c'était des stars des studios. Donc je pense que ces films ont marché.
On l'a vu, les films qui retracent des histoires d'amour lesbiennes se déroulent principalement dans un univers exclusivement féminin, comme le pensionnat, la prison, les couvents. Et là, donc, on va écouter un extrait d'Olivia, un film réalisé par Jacqueline Audry et sorti en 1951 en France. Donc, je fais un peu le synopsis. Nouvelle pensionnaire d'une institution de jeunes filles à Fontainebleau, la jeune Olivia trouble Mademoiselle Julie, professeure de littérature qui elle-même trouble habituellement toutes ses élèves. Mademoiselle Julie a une sœur, Cara, qui l'accuse de rendre vicieuse toutes les élèves. Nous sommes lors de la scène du bal de fin d'année. Julie fait tourner les têtes, complimente plusieurs filles, valse, s'enhardit jusqu'à embrasser une nuque.
Chère Amérique, Lafayette savait ce qu'il faisait. Tournez-vous un peu, mon ami. Eh bien, Olivia, es-tu jalouse de tant de beauté? Toi, tu ne seras jamais tout à fait belle, non, mais tu as ta part. Un joli regard, une jolie bouche, un joli corps. Beaucoup de grâce, Olivia, ce qui est parfois préférable. Mais si l'envie me prenait de vous embrasser, charmante hindou, comment ferais-je avec tous ces voiles? Je viendrai ce soir. Je t'apporterai des bonbons.
Sais-tu ce que c'est que d'être amoureuse?
Oui, je sais.
Dis-moi, explique-moi, comment est-ce?
Non, trop horrible pour en parler. Et trop délicieux pour y penser.
11h, c'est fini, mes enfants. Au lit.
Olivia.
Quelle heure est-il donc?
2h. Mais j'avais ordre de ne pas vous éveiller et de vous faire déjeuner au lit. Seulement, il faut vous dépêcher. Mademoiselle Julie vous attend en bas pour vous rendre votre devoir de littérature.
Je pense que je ne t'apprends rien en te disant qu'il n'est pas bon. Tu n'as pas beaucoup travaillé ces derniers temps, Olivia. Tu as reçu en partage beaucoup de dons et de grâces. Comme ce serait dommage de gâcher tout ça en poursuivant des chimères. Oui. Oui, tu entends des chimères. Je t'ai causé de la peine hier soir, je le regrette. Si de toi-même, tu ne sens pas pourquoi, je n'essaierai pas de te l'expliquer. Mais il y a une chose dont je voudrais te convaincre. C'est que je m'efforce d'agir pour le mieux. Pour le mieux de l'une comme de l'autre. Je t'aime bien, mon enfant. Plus que tu ne crois.
Retour à l'antenne, mon micro, c'est Gouinement lundi. Une petite correction
parce... Oui, une grande correction, parce que c'est une grave erreur. En fait, Clara et Mademoiselle Julie sont ensemble, elles sont en couple. Ce sont les deux directrices du pensionnat.
Ouais.
Elles ne sont pas du tout sœurs. Ouais. Et justement, c'était quelque chose de très moderne à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Brigitte ?
Oui, donc l'erreur vient du fait que les fiches du cinéma continuent à dire que Clara et Mademoiselle Julie sont sœurs. Elles ne sont pas du tout sœurs. C'est en effet un couple qui est posé dans la scène qu'on voit, là, la scène de bal. Elles ouvrent le bal, qui est vraiment pour moi un espace de l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. En plus, dans le roman, ça ne se passait pas comme ça. C'est un bal travesti. En plus, il y a tout un jeu autour de la question des représentations. Le bal, c'est aussi un endroit où les corps se touchent. Et on voit les personnages qui dansent ensemble, y compris Mademoiselle Julie et Mademoiselle Clara. Et en fait, par rapport à ce qui était dit plus tôt sur le fait qu'il n'y avait pas d'hommes, parce que j'ai eu la chance d'avoir le pressbook de Jacqueline Audry sur Olivia, donc c'est un énorme pavé dans lequel est collé vraiment toutes les comptes rendus dans des publications, y compris étrangères, autour de ce film. Et ce qu'on voit de la part de la critique masculine, mais pas seulement, c'est le fait qu'il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'homme dans ce film. Avant, on aperçoit un jardinier de dos et à la fin, quand la police doit intervenir, on voit un commissaire. Mais sinon, tout le film se passe uniquement entre femmes. Et de la part de certains critiques, même certaines femmes qui disent « Bon, on aurait quand même bien envie qu'il y ait un homme. Quand même, les hommes, ça sert à quelque chose. Ce serait bien qu'il y en ait un dans le film. » Mais de la part des hommes qui n'avaient pas nécessairement conceptualisé ça, par rapport à l'idée du regard et la question de la perspective, en tout cas, eux, ils se disent « on ne me parle pas ». Et donc, c'est très souvent dans les critiques, il y a ce rejet. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, le fait que c'est en effet un couple, et puis qu'il y a cette attirance du personnage d'Olivia pour Mademoiselle Julie, dont elle ne se cache pas, elle en parle à d'autres. Mais la grande modernité... Et c'est aussi ça que la critique, une certaine critique en tout cas, n'a pas supporté, c'est que l'homosexualité n'est pas le sujet du film. Enfin, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le douloureux problème de Ménie Grégoire. C'est une donnée. Ces personnages sont un couple et il y a ces relations de désir qui existent entre les élèves et entre les professeurs. Mais ça n'est pas posé comme dans certains films que je trouve assez insupportables où il faut régler le problème. Là, il n'en est pas question. Le mot n'est pas prononcé. On dit quand elles se séparent, en effet, c'est comme un divorce. Mais personne ne dit quoi que ce soit. Ce n'est pas un sujet, réellement.
Moi, je serais lesbienne. En tout cas, j'aurais aimé vivre dans un pensionnat.
Disons qu'en tout cas, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le... Jeune fille en uniforme, quand on regarde les deux films l'un après l'autre ou en parallèle, on se rend compte à quel point dans Olivia, il y a une volonté de complètement modifier ce film de pensionnat, parce que c'est ouais. Même aussi bien les espaces que les rapports entre générations, entre adultes, enseignantes, enseignés, n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y avait dans Jeune fille en uniforme, qui est extrêmement dur de ce point de vue-là.
Et alors, qui était Jacqueline Audry, la réalisatrice de ce film ?
Alors, Jacqueline Audry, c'est une femme qui commence tout en bas de l'échelle, qui se met à faire du cinéma, qui rentre par la petite porte par une amie, qui gravit un peu tous les échelons, qui fait un peu tous les métiers, qui est sans doute la seule femme, même si je n'ai pas la preuve ultime, à avoir étudié le cinéma dans ce qui était l'ancêtre de l'IDEC et qui, pendant la guerre, était installée à Nice. Et elle va faire son premier film, qui est une adaptation des Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, et qui va avoir des problèmes avec la censure de Vichy, ce qui a l'air un petit peu étonnant, mais ça s'est réellement passé. Et donc, il y a des attentes, on se dit, c'est bien, c'est une femme qui fait des films pour enfants, donc c'est l'association de la femme qui fait des films pour enfants. Et puis, en fait, elle va adapter Colette, une autre scandaleuse, et puis dans sa carrière elle va très souvent mettre en scène, elle le dit d'ailleurs, hein, c'est une réalisatrice féministe bien avant le féminisme des années 70 qui choisit toujours des personnages féminins qu'elle fait triompher à la fin et donc elle a un grand succès avec une adaptation de Colette qui s'appelle Gigi, où elle lance Daniel Delorme, et grâce à ce succès, elle va pouvoir faire d'autres films, y compris Olivia, puisqu'Olivia, dans sa carrière, arrive à un moment qui est sans doute lié au succès précédent des adaptations de Colette, faites avec l'aval de Colette, d'ailleurs.
Est-ce qu'elle a fait d'autres films qui mettaient en scène des relations entre femmes ?
Et elle a fait une adaptation de Huis clos, avec Arletty, qui joue Inès la lesbienne, qui n'est pas inoubliable, mais bon, qui mérite quand même d'être vue. Voilà, dans les lesbiennes identifiées, c'est un peu tout ce qu'on a. Mais en même temps, dans ces films, dans les adaptations de Colette, mais c'était déjà là chez Colette, il y a des échanges entre femmes dans Mine ou dans Gigi, qui sont des échanges sur la sexualité sans être sur l'homosexualité, mais il y a une grande complicité féminine qu'on trouve dans les films des adaptations de Colette.
Là, donc, c'est une réalisatrice femme, ce qui est vraiment très très rare à l'époque. Quand les films sont réalisés par des hommes, on en parlait tout à l'heure un peu, qu'il y a des relations entre femmes, il y a un biais. Quelles sont un peu les représentations stéréotypées ? Et on peut par exemple parler, enfin, une des critiques qui revient très souvent, c'est le manque de réalisme dans les scènes, notamment par exemple le film de la vie d'Adèle, où le manque de réalisme des scènes de sexe a été très critiqué. Notamment, je sais aussi, un débat lors de Cinéfable. Est-ce que vous voulez intervenir
En effet, il y a quelques années, il y a
2013,
oui. On a fait un débat, en effet, autour du film La vie d'Adèle, qu'on n'a bien évidemment pas passé au festival, mais comme une grande partie de notre public a vu le film et avait des choses à dire, on a organisé un débat autour de la représentation des lesbiennes, autour de toutes ces scènes-là. Il y avait énormément de monde à ce débat. Ça a beaucoup parlé, il y a eu des réactions très diverses et variées, aussi diverses que nous sommes.
Par exemple,
entre les générations, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les générations ?
Moi, je n'étais pas au débat, mais j'ai souvenir d'un article, enfin, est-ce que c'était un article ou c'était passé à la radio, en tout cas, on peut le retrouver sur Internet, de Marie-Hélène Boursier, au moment de la sortie du film, qui était vraiment très très bien envoyé. Enfin, elle est quelqu'un d'assez radical, et dans son propos et dans sa pensée. Ce qu'elle disait, même sans, enfin, moi je le dirais un petit peu autrement, mais il y a vraiment cette idée, je dirais pas que c'était les lesbiennes pour les nuls, le film, mais c'est davantage l'idée des lesbiennes telles que se le font des hommes qui ne connaissent des lesbiennes que les lesbiennes des pornos. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout... Pardon ?
Non, je dis carrément.
Oui, parce qu'en fait, on est dans des représentations du saphisme qui ont très, très peu à voir avec un grand nombre de pratiques. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui s'est dit lors du débat de Cinéfemmes, mais on est dans des constructions qui sont des fantasmes autour de ce que les femmes font entre elles. Mais là-dessus, je vous encourage à retrouver l'intervention de Marie-Hélène Boursier, qui est vraiment tout à fait claire sur cela.
Chris ?
C'est vrai que sur le sujet, moi, j'ai eu du mal à me positionner, donc je suis quand même allée voir le film pour me faire une idée avant de pouvoir en parler. Et j'attendais avec impatience, en fait, que l'auteur qui a écrit la bande dessinée au départ,
Le bleu est une couleur chaude.
Voilà, le bleu est une couleur chaude, s'exprime en fait. Et elle a attendu bien après le Festival de Cannes et toutes les vagues médiatiques pour enfin s'exprimer, pour dire clairement ce que j'avais imaginé, hein, qu'elle avait été dépossédée complètement de son œuvre et elle n'a jamais été consultée en quoi que ce soit à part l'achat et le paiement. Et moi, j'ai regretté, indépendamment de ce regard masculin sur sur des femmes lesbiennes qui ne m'étonnaient pas spécialement. Le traitement était assez attendu. Hein. On imaginait bien ce qui allait arriver. Il y est arrivé ce qui était fait arriver. Donc là, il n'y a pas de surprise. Ce qui me déçoit plus, c'est qu'en adaptant une œuvre que... Bon, moi, je n'ai pas super accroché non plus avec cette œuvre-là, mais il y avait aussi une dimension sociale, puisqu'il y a une différence de niveau social entre les deux. Mmh. Et il y avait une dimension familiale qui était intéressante. Et s'il avait déjà au moins gardé cette véracité dans le parcours de ces deux personnages... Il y avait des choses bien plus intéressantes que de se regarder lui-même filmer et regarder je suis un beau réalisateur, parce qu'il y avait un égocentrisme évident du premier plan au dernier qui était assez insupportable. Voilà, au-delà de tout ce qu'on peut avoir donc déjà sur la forme. Et une deuxième partie où effectivement il est charmé sur deuxième partie du film où il est charmé par son actrice et il part sur sa vie d'institutrice. Bon, il y avait des choses à faire avec des moyens qu'il a eu, les comédiennes qu'il avait et le livre de départ dont il s'est inspiré. Sinon, il écrit lui-même un scénario et puis basta. Pourquoi dénaturer une œuvre lesbienne de cette façon ?
À propos des comédiennes, il y en avait qui étaient lesbiennes ? Pas du tout. Non, c'est pas ça.
Bon, a priori, non. Ouais. Elles se sont les deux exprimées sur le sujet, non. Mais bon, à la rigueur, sur le sujet là, on s'en moque un petit peu. Hein. C'est pas le sujet.
Brigitte ?
Oui. Je voulais juste rajouter que je pense que plutôt qu'écrire son scénario, là, avec cet ouvrage, même s'il est, je ne sais pas s'il était connu avant, moi je l'ai découvert au moment où le film est sorti, la BD, ça a donné une légitimité, ne serait-ce qu'auprès d'un public lesbien, le fait que ce soit une adaptation de cette BD. Et donc, je ne dirais pas que c'est un cheval de Troie, mais c'était une façon d'acquérir à moindre frais, entre guillemets, une espèce de légitimité lesbienne. Mais en même temps, moi, je sais par mes étudiantes que chez les vintenaires, c'est un film qui a beaucoup plu et dans lesquels elles se sont retrouvées. Bon, on n'a pas du tout parlé de la scène de sexe, mais je trouve ça très, très étonnant. Que si ça parle à ce public-là, ça dit beaucoup sur là où on en est aujourd'hui en termes de représentation et et d'attente.
Oui, Chris.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est inquiétant en termes de représentation. Ça veut dire qu'il y a encore très peu pour des personnes qui ne sont pas à Paris. Déjà, c'est plus compliqué, c'est plus facile à Paris. A priori, par le web, puisque le DVD... diminue, parce qu'en fait, en achetant maintenant en DVD, quand on arrive à avoir son premier boulot, on peut acquérir une DVD-tech assez incroyable maintenant sur les films lesbiens. Hein. Moi, je viens d'une époque où les références, je peux vous dire que j'en avais zéro, à part Martina Navratilova à la télé, et je la remercie. Sans elle, j'ai lu et relu sa bio pendant des années, c'était mon livre de chevet, mais sans elle, j'aurais eu zéro référence lesbienne. Alors que des jeunes qui arrivent maintenant, et ça m'arrive d'en croiser, je peux passer des heures à leur donner une liste de livres, une liste de DVD qui sont accessibles à moindre frais. Mais a priori, cette culture-là n'est pas accessible au grand public quand on est quelque part.
Et alors justement, les réalisatrices lesbiennes, elles existent quand même. Alors comment on peut expliquer qu'on n'en trouve pas donc à ce niveau de...
Alors, déjà, les réalisatrices lesbiennes, il faut voir si on dit celles qui s'identifient comme telles ou celles qui font des films à problématique lesbienne. C'est toujours la difficulté de l'adjectif. Et je ne suis pas sûre que toutes les réalisatrices... On sait, moi j'en connais quelques-unes, des réalisatrices lesbiennes, mais ça ne veut pas dire pour autant, un, qu'elles aient envie que ça se sache... deux, qu'elles ont envie d'être identifiées comme telles. Et trois, qu'elles ont envie, du coup, de mettre ça dans leur cinéma. Parce qu'en France, il faut quand même voir qu'une femme qui met un personnage de lesbienne dans son cinéma, pour le public et pour la critique, elle l'est. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'elle mettrait un personnage de lesbienne ? Je ne sais pas si on se pose autant la question pour les hommes s'il y a un personnage de gay dans un film, mais en tout cas pour les femmes. Donc j'imagine assez bien les réticences de réalisatrices à... Ce n'est pas nécessairement une étiquette lesbienne qui est perçue comme positive non plus.
Émilie ?
Oui, on va revenir un peu sur les scénarios typiques des films lesbiens, où il y a toujours une histoire d'amour de jeunesse, on se retrouve des années plus tard, on est marié avec des enfants, mais les sentiments sont toujours là. Et puis généralement, ça se finit de façon assez dramatique. Et est-ce que, Brigitte, vous pouvez expliquer pourquoi est-ce qu'on a un peu cette même typologie des scénarios, qui sont aussi un peu mièvres ?
Alors je ne sais pas si c'est exactement cette typologie-là. Moi, ce que j'ai repéré, en tout cas à la télévision, et on voit ça un peu au cinéma également, c'est on a l'impression qu'il y a un nombre limité d'histoires autour des lesbiennes. et c'est-à-dire la découverte de sa différence, les problèmes avec les parents, les problèmes avec l'école. C'est pour ça, je pense aussi, que la vie d'Adèle a plu. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de jeunes lesbiennes qui ont pu se retrouver dans les scènes de lycée ou d'homophobie vécue par le groupe au lycée. Donc, mais bon, ça ne suffit pas à faire une identification. Mais il y a aussi le fait que, indépendamment de ces récits lesbiens, si vous regardez les films faits par des jeunes réalisatrices aujourd'hui, un grand nombre de premiers films, ce sont des histoires d'ados ou de jeunes femmes, des romans d'apprentissage au féminin. Et donc, qu'il y ait des récits lesbiens dans cette masse de récits d'apprentissage, ça n'a rien d'étonnant. C'est peut-être plus aujourd'hui concevable que ça n'était il y a 20 ou 30 ans. Même si le personnage de l'adolescente a toujours quand même beaucoup séduit les réalisatrices parce que c'est le devenir femme et le choix, enfin, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps n'était pas pensé comme un choix, de reproduire le modèle maternel d'hétérosexualité ou de suivre ses tendances éventuellement homosexuelles. Donc c'est plutôt la tendance d'un cinéma fait par des femmes qui est généralement un cinéma d'auteur un peu fauché. Je dis ça, c'est pas non, mais c'est pas dans le sens négatif, mais c'est on reparlera éventuellement des questions financières plus tard, mais un type de récit qui est une forme de roman d'apprentissage.
Et vous avez choisi aussi donc un extrait d'Oublié Cheyenne de Valérie Mineto qui est sorti en 2006. On va l'écouter, puis après on commentera.
Mon amour, tu refuses de me parler, tu déchires mes lettres. Il me reste que la transmission de pensée. Je pense à toi tout le temps, Sonia. Je veux que tu viennes. Je veux vivre avec toi. Je veux qu'on soit heureux ensemble.
Tais-toi. Tais-toi.
Je veux pas croire que tu supportes ce monde absurde.
T'es toujours avec ta copine?
Oui.
Tout se passe bien?
Et tout se passe bien.
Et t'es sûr que tu préférerais pas un mec?
Et toi, tu préférerais pas un mec? Mon amour, il y a des choses que tu veux pas comprendre. Moi non plus, je suis pas d'accord avec ce monde. J'en fais partie. Alors je vais pas cracher dans la soupe.
Eh ben, je vais m'en passer de l'électricité, c'est pas plus bête que ça. On a vécu des siècles sans électricité, c'était pas un problème.
Je peux pas être comme toi. Et je le veux pas. Je peux pas me résoudre à ta misanthropie. Moi, le monde, j'en fais partie. Alors j'essaie de l'aimer. Je voudrais être radicale comme toi, mais que ça me coûte rien. Ni solitude, ni inconfort moral ou matériel. Tu vois, de nos deux, c'est moi l'idéaliste.
Cheyenne et Sonia s'aiment et sont heureuses, n'est-ce pas ?
Oui. Pourquoi est-ce que ce film vous a particulièrement plu, Brigitte ?
Ben déjà parce que on part. Alors même si on discutait un petit peu avant et autour de la table, personne trouvait ce film très triste. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, je trouve que c'est un film d'un point de vue formel très très innovant. Et au niveau du contenu, on part du principe que la relation entre ces deux femmes est une donnée. Donc on n'en discute pas. Le problème, il est déjà c'est un film assez politique, puisqu'il y a cette femme qui se retrouve au chômage, qui est très radicale. Elle n'a pas de voiture, mais elle refuse de monter dans une voiture. Elle est décroissante. Elle est vraiment dans une démarche politique d'une alternative au monde tel qu'il est. Déjà, je trouve ça, c'est un personnage assez rare quand même au cinéma. Un petit côté sans toi ni loi, mais sans le pessimisme de Varda qui fait mourir son personnage au début. Et là, on a quand même ce couple. Alors certes, c'est un couple qui a des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes. Tes parents ne savent pas que tu es lesbienne, je veux exister dans ta vie. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans autre chose. Et c'est cette dimension politique de ce cinéma qui m'a plu. C'est-à-dire que ces femmes sont ensemble. Enfin, en l'occurrence, elles ne sont pas ensemble beaucoup dans le film, justement, compte tenu des divergences politico-économiques qui les séparent. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment Ce film marque l'entrée du cinéma lesbien, ou en tout cas avec personnages de lesbiens, qui entrerait dans une maturité. C'est-à-dire qu'on arrête de raconter des histoires d'ados qui se découvrent différentes et qui font leur coming out à leur famille. Ce qui est très intéressant, mais c'est bon, je pense qu'on a compris le message. On a déjà vu ça 100 fois, la télé s'en est chargée aussi. On peut passer à autre chose maintenant.
En fait, dans ce film, les deux protagonistes, quelque part, sont confrontés au monde et vivent leur relation face à lui. Et c'est ça, en fait, le cœur du film.
Oui, mais en même temps, il n'y a pas du tout, on ne voit pas du tout non plus d'homophobie dans le film. Il y a le collègue qui va dire « Ah, t'es toujours avec ta copine, t'as pas envie d'un homme ». Mais c'est la seule occurrence, vraiment, parce que l'une des deux femmes, la moins radicale, Sonia, on la voit avec un homme au début, quelqu'un qu'elle a ramassé dans un café, et ça fait pas du tout, c'est pas du tout construit comme dans le film de Kechiche. C'est-à-dire qu'on n'est pas, là-dedans. On n'est pas dans. Elle fait pas ça pour se prouver qu'elle est normale. Elle a simplement pas envie d'être toute seule. Et c'est pas du tout dans un souci d'hétéro-normativité déguisée. Donc je trouve ça plus mûr comme regard sur l'homosexualité et qui ne fait pas totalement abstraction du monde, au contraire, mais on l'aborde sous un angle différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'homophobie et le discours qui est un peu bien pensant, qu'il ne faut pas juger les autres, enfin bon, quelque chose comme ça un peu curé, je trouve, qu'on peut trouver dans les fictions télé. Mais donc on est dans une autre dimension.
Chris ?
Oui, je voulais profiter parce qu'on a un peu sauté des années 50 aux années 2000. Et moi, mon regard de jeune lesbienne, de jeune réalisatrice, de jeune spectatrice s'est formé plutôt dans les années 90. Et j'ai eu la grande chance d'arriver à l'époque où il y a eu deux films qui sont marquants pour moi. Alors, j'aurais du mal à les recommander parce qu'ils sont vachement datés, du coup, maintenant, pour des jeunes lesbiennes. Mais bon, je dirais que la comédie romantique de la canadienne, donc When Night is Falling, qui est... l'un des premiers films lesbiens, on va dire qu'il se finit bien, il y en a eu avant, mais c'est bon, dans les comédies romantiques. Et dans la même année, quasiment, dans la foulée, Go Fish, qui est là vraiment un film lesbien, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de la société, comment elle fonctionne, on s'occupe de nous, comment, dans notre bande d'amis, c'est un film en noir et blanc, fait à New York, avec quelqu'un qui va s'installer dans l'industrie du cinéma et de la télévision américaine, et qui est toujours, c'est Rose Torch, qui a écrit notamment des épisodes d'Elleworld, mais elle a fait d'autres séries... notamment avec la famille de Fossoyeur, Six Feet Under, qui a réalisé et écrit certains épisodes de cette série-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du talent, qui fait son premier film sur ce qu'elle connaît, ses amis, elle-même, et qui rentre dans l'industrie. Donc pour moi, ça a vraiment été deux films fondateurs qui m'ont donné des ouvertures. Voilà, quand j'ai vu One Night, j'étais furieuse en sortant, en me disant, voilà, c'est la comédie romantique que je peux absolument plus faire, j'aurais aimé faire ce film. Heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, hein, sinon je ne ferais pas beaucoup de films. Mais celui-là, ouais, voilà, moi j'aurais conseillé ça en fait.
On va passer maintenant à la troisième partie, mais avant une petite pause.